On vous souhaite un bon milieu de matinée. C'est l'émission Les Voix de Service Magazine qui vous accueille comme ça tous les jours de la semaine dès 9h et pour vous lire, en fait, différents articles de magazines et de blogs de toutes sortes. C'est la mission de cette émission. Je m'appelle Claude Blas et naturellement, je suis accompagné ce matin pour lire ces fameux articles de deux magnifiques abords par Franceline Nieuwiart.
Oui,
comment allez-vous ce matin?
Bonjour, ça va bien?
Oui.
Alors, je vais vous lire un article, d'abord la chronique de Yannick Marcil qui est parue dans l'itinéraire du 1er août 2018 qui s'intitule « Le mythe américain ». Et puis ensuite, en deuxième partie, je vous lirai deux petits articles que j'ai trouvés dans le journal du Bel Âge de juillet-août 2018, écrit par Linda Presley. Le premier article s'intitule « Tourisme humanitaire, un solide coup de main ». Et le deuxième, « Proches aidants, astuces pour mieux gérer notre charge mentale ».
Excellent, c'est dans la deuxième partie de l'émission.
C'est voilà, ouais. ces deux petits articles.
Merci beaucoup, Franceline. Serge.
Oui, bonjour.
Monsieur alors, Serge Hamelin, comment allez-vous?
Moi-même. Très bien, merci. Oui. Alors, moi, je vais vous parler des soupes prêtes à servir en boîte, hein, pour ne pas dire en canne. Uh-huh. Et puis, je vais vous parler de la cyber-intimidation auprès des adolescents. Terrible.
Ah, ouais. Sujet important.
C'est beau.
Oui, merci. Et de mon côté, je vous lis deux articles que j'ai trouvés dans l'actualité du mois de septembre. On parle de la revanche des bactéries. Vous allez voir un article très intéressant. Et une avancée dans la transparence, c'est un article de Alain Vaudeboncoeur et on parle naturellement du nouveau carnet de santé que vous pouvez avoir accès dans la grande métropole en fait en ce moment, mais ça devrait se développer au cours des prochains mois. Alors on vous revient dans quelques instants avec Franceline. Alors, Franceline, premier article.
Oui, alors, le mythe américain, selon Yannick Marcil. Il écrit ceci. « Mon père est né en 1946. Il était donc parmi les premiers baby-boomers à naître. Son père était un modeste ouvrier non qualifié, finisseur de trottoirs l'été et opérateur de machinerie pour la voirie municipale l'hiver. Ma grand-mère a toute sa vie été femme au foyer et s'occupait de sa fille, de son fils et de son mari. » La famille n'était pas riche, voire assez pauvre. Lorsque j'ai eu 6 ans, je me souviens bien, mes grands-parents m'avaient envoyé une carte de souhait dans laquelle mon grand-père avait écrit quelques mots. Ayant appris à lire et à écrire très tôt, j'avais remarqué une faute de grammaire dans ses souhaits. L'enfant choyé que j'étais, ayant grandi dans une maison remplie à craquer de livres, ne comprenait pas. Mon père a dû m'expliquer que ses parents étaient à toute fin pratique analphabètes. Il n'avait pas eu la chance que lui a eue d'aller longtemps à l'école. Ce fut le début de ma prise de conscience des inégalités sociales. Comment était-il possible que mes propres grands-parents fussent pauvres et illettrés, alors que mes parents, sans être riches, étaient financièrement confortables et détenaient tous les deux des diplômes universitaires? Une petite partie de l'explication appartient à feu ma tante. Elle avait beau être l'aînée, elle a sacrifié ses études pour permettre à son frère d'accéder à l'université. Mon père, à 18 ans, lors de la création du ministère de l'Éducation du Québec en 1964, 88 ans en retard sur l'Ontario, rappelons-le, portefeuille détenu par Paul Gérin-Lajoie décédé récemment, dans ses mémoires, celui-ci rappelle qu'en 1926, une commission d'enquête révélait que 94% des enfants catholiques, donc francophones essentiellement, quittaient l'école après la 6e année d'études. C'est de cette révolution tranquille qui a été beaucoup celle de l'éducation dont ont bénéficié mon père et une large proportion de sa génération. Sans la possibilité d'accéder à l'université à coût raisonnable, mon père n'aurait jamais décroché sa maîtrise en mathématiques qui était dans les faits un des premiers diplômes décernés en informatique au Québec. Instantanément, après quelques années de travail étudiant tout de même, mon père est passé de sa classe ouvrière natale à la nouvelle classe moyenne, goûtant la littérature, les sciences, le théâtre et la gastronomie. On ne mesure pas le saut qualitatif que ces baby-boomers ont connu au Québec. C'est tout simplement révolutionnaire, justement. Tranquille mais révolutionnaire. En une seule génération, Des centaines de milliers de familles québécoises se sont hissées d'une situation socio-économique précaire à l'aisance de l'American Dream. Cette ascension a été rendue possible grâce à l'action collective et politique, celle de l'édification de l'État social. Ce rêve américain, celui de croire que lorsqu'on travaille fort, on peut s'enrichir, est un mythe. Si cela peut être vrai, c'est une exception. Ce sont essentiellement les institutions collectives, les mouvements sociaux et les décisions politiques qui le permettent. Ça a été le cas pour les baby-boomers, de manière spectaculaire, en grande partie par le rehaussement très rapide du niveau de scolarité des Québécois et des Québécoises, véritable ascenseur social. Une étude récente de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, montre que cet ascenseur est en panne. C'est d'ailleurs le titre du rapport. Dans les pays industrialisés, cela prend 5 générations pour qu'une famille pauvre atteigne la classe moyenne. Les familles pauvres d'aujourd'hui, si rien ne change, ne peuvent pas espérer l'atteinte de la classe moyenne avant la naissance de leurs arrière-arrière-petits-enfants. L'analyse de l'OCDE est claire. Ce qui explique cette stagnation intergénérationnelle est l'éducation. Autrement dit, on a tendance à ne pas atteindre des niveaux de scolarité plus élevés que ceux de nos parents. La solution consiste donc à renverser cette situation en favorisant massivement la scolarisation de tous et de toutes. Ma regrettée tante Francine a fait des sacrifices pour permettre à mon père de décrocher son diplôme de maîtrise. Mais sans l'effort collectif des artisans de la Révolution tranquille, cela aurait été insuffisant. Mon père et ma tante auraient dû pouvoir faire des études supérieures pour accéder à une vie matérielle meilleure, pas qu'un des deux seulement. Voilà, écrit par Yannick Marcil dans le journal L'Itinéraire du 1er août 2018. Et dans ces temps de période préélectorale, ce sera peut-être à penser l'importance de l'éducation.
Effectivement. Yannick Marcil qu'on reçoit d'ailleurs ici une fois par mois.
Oui, sûrement la semaine prochaine.
Sûrement la semaine prochaine. Alors, on l'attend avec impatience. Merci beaucoup, Franceline. Alors Serge, on parle de manger en fait réconfortant.
Ah oui, oui, réconfortant, surtout l'hiver quand il fait froid là.
Oui, on parle
ce qui n'est pas le cas, alors on aura le temps de se préparer. Hein?
Effectivement.
Bon, alors, ils ont fait des tests, la revue Protégez-vous, imaginez-vous donc, sur les soupes prêtes à servir. C'est pratique, mais pas toujours santé. Et c'est Catherine Crépeau, la journaliste, et Linda Gauthier, chargés de projet, qui ont écrit cet article. Alors, on dit que rien de mieux qu'une bonne soupe pour se réchauffer, c'est pas le temps là, de ce temps-là, et se réconforter durant les froides journées d'hiver, on n'est pas rendu encore. Les versions prêtes à servir que vous trouvez sur le marché valent-elles des tours? En collaboration avec Extenso, le centre de référence en nutrition de l'Université de Montréal, on a comparé seulement 222 variétés de soupes et de potages vendues sur les tablettes et dans les frigos des épiceries et des magasins d'aliments naturels. 222. Résultat, à peine un produit sur 10 respecte tous nos critères de bon ou de meilleur choix. Alors les meilleurs choix, il faut que par portion de 250 ml, c'est-à-dire de une tasse, que ça contienne pas plus que 350 mg ou moins de sodium, 4 g ou plus de fibres et aucun édulcorant. Et les bons choix, 450 g ou moins de sodium, 3 g ou plus de fibres et aucun édulcorant. Alors, une bonne soupe ne doit pas être trop salée et doit contenir un minimum de fibres pour nous soutenir pendant quelques heures. Alors, on a donc fait de ces deux points les principaux critères d'évaluation. Les limites ont été fixées en tenant compte que la soupe sera consommée en entrée ou encore comme accompagnement d'un sandwich ou d'une salade, lesquelles ajouteront certainement un peu de sodium à votre assiette ainsi que des protéines. Vous désirez un produit qui soit assez consistant pour servir de repas, Eh bien, le tableau qui aura à la page suivante nous indique lesquels contiennent suffisamment de protéines pour cela. Et il nous faudra toutefois doubler la portion de référence. Alors, on dit que c'est une question de goût. Eh oui, le sel est un incontournable pour ajouter du goût au plat. Mais est-il nécessaire? Les produits faibles en sodium sont-ils aussi agréables au palais? Et quatre membres de l'équipe ont dégusté à l'aveugle nos cinq meilleurs choix. Ils ont évalué le goût et l'odeur des produits, amertume, assaisonnement, arôme, ainsi que leur texture en bouche, crémeuse, claire, présence de légumes. On commence à avoir un petit creux, là. Et résultat, la plupart des soupes manquent d'assaisonnement, bon, et gagneraient à être un peu plus relevées. Et une faiblesse à laquelle il est facile de remédier, sans avoir recours à la salière. Ainsi, une touche de cumin ou de curry relève une soupe aux lentilles, comme celle d'Amy's. Une soupe au pois peut être améliorée avec un peu de sarriette, tandis que le basilic et l'origan rehaussent les minestrones et les soupes à base de tomates. Dans le cas de la soupe à l'orge des artisans de l'aube, je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là, une pincée de poivre a suffi à lui donner du mordant. Ah, alors les trois produits de la marque, je le dirai pas, je vais vous le dire tantôt. OK? Alors, un peu, beaucoup de sel, et pour donner du goût à leur soupe, les fabricants les assaisonnent d'herbes, d'épices, de poivre, mais surtout de sel. Si bien que 84% des produits qu'on a examinés sont trop salés pour figurer dans les recommandations. Et le pire à ce chapitre, c'est laquelle? C'est la soupe au bœuf de la marque sans nom, qui en contient 1090 mg par portion, soit près de 2,5 fois la limite fixée par les bons choix. Et c'est aussi presque la moitié de l'apport maximal tolérable fixé à 2300 mg par jour par Santé Canada. À l'inverse, on a aussi trouvé des produits où le sel prend peu de place, et c'est le cas de la soupe à l'orge des artisans de l'aube, qui n'en renferme que 170 mg et qui fait partie des meilleurs choix. Bon. Alors, certaines soupes se présentent comme étant moins salées que leur version originale, et tiennent-elles leurs promesses? Oui. Tu sais, c'est marqué là, 50% moins. Alors, mais des nuances s'imposent. Les quatre produits de la marque Amy's qui affichent une teneur réduite en sodium sont moitié moins salés que leur version originale et figurent dans les recommandations. Par exemple, la minestrone, teneur réduite en sodium, renferme seulement 290 mg de sodium contre 580 mg pour la minestrone. En revanche, d'autres soupes, comme la crème de poulet, 25% moins de sel, et de Saint-Hubert, qui contient 600 mg de sodium, sont moins salées que les originales, mais le sont encore trop pour être recommandées. Alors, comme quoi lire les étiquettes nutritionnelles est essentiel. Alors, les tests soupes prêtes à servir, voici les recommandations. Je ne la connaissais pas, celle-là, mais je vais y goûter. OK? La meilleure, à 95% pour une boîte assez grosse, 473 millilitres. Les autres, des fois, c'est juste 398 millilitres. Là. Okay. C'est la soupe à l'orge. Et on sait que l'orge, c'est très, très bon pour le cerveau. Les artisans de l'aube, la soupe à l'orge. Ouais. Ça coûte 1,75 $ à peu près. Amy's, lentilles. Et teneur réduite en sodium, elle arrive en deuxième position, la Amy's. Elle coûte un peu plus cher, celle-là. Et ensuite, elle est juste 398 millilitres pour 2,19 $. Les artisans de l'aube, soupe aux lentilles. Amy's encore, lentilles et légumes, teneur réduite en sodium. Et Amy's, alors Amy's arrive en première position, hein? Ben oui. Mais où est ma soupe Campbell?
Elle est où?
Elle est où, ma soupe Lipton?
Elle est où?
Ben, il n'y en a pas.
Ah, quand même.
Elle n'est pas là.
Non?
Mais non. Alors, il y a d'autres. Et alors, je vous ai donné cinq choix de meilleures soupes. Maintenant, je vais vous donner des bonnes soupes. OK? C'est pas les meilleures, mais elles sont correctes. La primo. Mm-hmm. Ouais. La récolte de lentilles. Elle arrive en sixième place. La commensale. Ou VG, lentilles ou curry. Les artisans de l'aube. La soupe au pois. Moi qui aimais la soupe au pois habitant. Uh-huh. Elle est même pas là. Alors, je vais goûter à la soupe au pois, les artisans de l'aube. Mm-hmm. Elle est combien, elle? 1,75 $. Bon, elle n'est pas si mal, quand même. La, au pois, elle est rendue une fortune, hein? C'est effrayant. Hein? Et les habitants? Moi, j'attends le spécial à 99 cents, mm-hmm. mais c'est rendu 2 $ et plus. Émise, minestrone, teneur réduite en sodium. La commensale, poireaux et haricots blancs. Imagine biologique, celle-là, je ne l'avais jamais vue. Je ne l'ai jamais vue. Imagine biologique, c'est la crème de tomate du jardin, il y a moins de sodium. Et la commensale minestrone, Karine et Jeff, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Karine et Jeff, ça doit être un couple.
Oui, sûrement.
J'imagine. Mm-hmm. Compliment, la crème de carotte. Ah, c'est bon une bonne crème de carotte quand c'est bon. Happy Planet. Ça vous... Non plus, hein?
Non plus.
On en apprend des choses ce matin. La c'est... Happy Planet.
Ouais.
Oh. C'est une soupe toscane à la tomate. Ben, dis donc. Commensal, commensal, l'Happy Planet, commensal. Et on finit en dernière position. Irrésistible. Ça, c'est dans la dernière position des bonnes soupes, là.
Ah.
Pas des dernières positions, des, parce qu'il y en a 222, là.
Alors, c'est quand même des bonnes soupes.
Bon, aristide, mieux-être, bœuf, orge et légumes.
D'accord.
C'est tout?
Oui, c'est tout.
Vous avez assez? Vous avez plus faim, vous?
Oui, on a encore faim, mais à force de prendre des notes, j'ai plus de place sur ma feuille, en fait. Merci, Serge.
Ça fait plaisir.
On s'en va à la pause musicale et tout de suite après, je vous reviens avec un article qui se titre « La revanche des bactéries ».
Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
Retour en 1954, c'est donc dire il y a 64 ans, avec Georges Brassens et ses chansons pour l'Auvergnat.
Merci beaucoup. Article que j'ai trouvé dans l'actualité du mois de septembre dans la section santé et sciences. Ça se titre « La revanche des bactéries ». Et vous allez voir, c'est quand même assez étonnant comme article. Au rythme où les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques, c'est vrai, de plus en plus, on pourrait bientôt revivre l'époque où une banale infection représentait un danger mortel. Heureusement, la riposte s'organise. 10 millions de morts par an en 2050 et 100 000 milliards de dollars de pertes économiques d'ici là. Voilà, si rien n'est fait, ce que causera la résistance aux antibiotiques et autres antimicrobiens, selon un rapport remis au gouvernement britannique en 2014. Déjà, un demi-million de personnes meurent chaque année, estime l'Organisation mondiale de la santé, parce que les micro-organismes, entre autres les bactéries, les virus, les champignons, les parasites, survivent aux médicaments conçus pour les éliminer. Tous les pays sont concernés. Comme pour les changements climatiques, on a besoin d'une riposte planétaire, insiste l'infectiologue suédois Otto Kars, fondateur de REACT, la première ONG mondiale à militer pour que les autorités publiques et le secteur privé s'attaquent sérieusement à ce sérieux fléau. Les micro-organismes qui suivent les lois de la sélection naturelle s'adaptent rapidement à ce qui les menace. Il n'a fallu que quelques années après la découverte de la pénicilline en 1928 pour trouver les premières bactéries résistantes à cet antibiotique. À mesure que de nouvelles molécules ont été commercialisées, le nombre de bactéries résistantes n'a cessé d'augmenter et notre arsenal pour les combattre n'a guère évolué. Depuis 30 ans, presque aucun nouvel antibiotique n'a vu le jour. Dans les années 1980, les sociétés pharmaceutiques ont arrêté la recherche, préférant se concentrer sur le traitement des maladies chroniques en nette progression. Pendant ce temps, l'humain a contribué à fournir aux bactéries des occasions de perfectionner leurs défenses. L'usage des antibiotiques en santé animale a explosé, car il facilite l'élevage intensif du bétail, de la volaille et des poissons. On en utilise même pour traiter certaines cultures. Dans l'environnement ou dans nos intestins, les bactéries se transmettent entre espèces leur capacité de résister, nous transformant tous en incubateurs à multirésistance. Résultat, on peine à traiter de nombreuses maladies bactériennes comme la tuberculose, entre autres. Il ne reste plus qu'un antibiotique oral efficace contre les souches de gonorrhée qui circulent dans le nord du Canada. Bientôt, il va falloir passer aux antibiotiques en intraveineuse. Beaucoup plus lourd à administrer, s'inquiète Marc Ouellet, professeur de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la résistance aux antimicrobiens. Le problème menace aussi les personnes rendues plus sujettes aux infections par une chimiothérapie ou une greffe, par exemple, ou celles qui viennent de subir une opération ou ont des plaies ouvertes. Si la tendance se maintient, on guérira de plus en plus des cancers, mais on mourra de microbes attrapés pendant la chimiothérapie. On atteint un seuil critique, insiste Otto Kars, qui surveille la progression de la résistance depuis les années 1990. Du point de vue d'une société pharmaceutique, mettre au point un antibiotique n'est pas une bonne affaire. Pour récupérer les millions investis en recherche, il faudrait vendre ce nouveau médicament pendant longtemps et à beaucoup de patients. Or, un antibiotique est prescrit pour quelques jours, à la différence de médicaments contre l'hypertension ou le diabète. Mais surtout, pour préserver son efficacité, les médecins devront l'utiliser le moins souvent possible. Bonne nouvelle par contre, le grand ménage des antibiotiques consommés inutilement par les humains et les animaux d'élevage s'accélère. Selon l'OMS, 90% des humains vivent dans des pays où les autorités essaient d'en diminuer l'usage. En 2017, comme d'autres, le Canada a publié son plan d'action. De nombreux organismes ont changé leur ligne directrice ou interdit certaines ordonnances. Par exemple, en 2016, la Société canadienne de pédiatrie a revisé ses recommandations pour le traitement des otites, entre autres, car les études ont montré que même des otites bactériennes guérissent souvent aussi vite et aussi bien sans antibiotiques. Les producteurs de poulet du Canada, pour leur part, ont interdit en 2014 l'usage préventif des antibiotiques de la catégorie 1, dont certains comme le Celtiofur, voilà, étaient injectés dans les œufs. La mesure a eu les effets escomptés. Selon les analyses de 2017, le pourcentage d'E. coli et de salmonelle résistants à ces fameuses Celtiofur a baissé dans les productions avicoles du Québec. L'OSM recommande qu'aucun antibio ne soit donné à titre préventif à des animaux sains. Mais le Canada, ni le Canada ni les États-Unis n'ont encore renié cette pratique, déjà bannie dans plusieurs pays européens. Au Canada, à compter de la fin 2018, tous les antibiotiques donnés aux animaux devront avoir été prescrits par un vétérinaire. Mais dans de nombreux pays en développement, ils sont encore en vente libre, même pour les humains. Il va falloir débloquer des fonds pour les aider à revoir leurs pratiques, insiste Autocar de l'ONG, aider les petits pays à passer à l'action. Du point de vue d'une société pharmaceutique, mettre au point un antibiotique n'est pas une bonne affaire. Je l'ai déjà lu, je vais passer à l'autre page. Numéro de page. Alors, en conclusion, les chercheurs s'intéressent aussi aux antibiotiques sécrétés par les bactéries elles-mêmes pour se défendre contre leurs congénères. Avec des techniques de métagénomique, il vient ainsi d'isoler un nouveau antibio potentiellement efficace contre les fameuses maladies dorées résistantes à la méticilline, entre autres, et une des bactéries multirésistantes les plus inquiétantes au Canada. Et pour la recherche aussi, il faut mieux s'organiser pour être plus efficace, ajoute Autocars. Les Suédois vont inciter l'ONU à mettre sur pied une organisation mondiale de la recherche sur la résistance aux antimicrobiens à l'image du GIEC, qui examine les changements climatiques. S'ils veulent gagner contre les microbes, les humains vont devoir faire front commun. Alors voilà, c'est un article que j'ai retrouvé dans la revue L'Actualité, en fait sur le site Internet, dans la section Santé et sciences. Ça se nomme « La revanche des bactéries ». Alors voilà, deuxième partie de l'émission qui s'en vient, et toujours avec Franceline Neuviard et Serge Hamelin. À plus tard.
Écoutez les voix de service.
Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh,
veux-tu venir ici? Satané Mirza!
Pas besoin de raison en particulier pour écouter Nino Ferrer, mais aujourd'hui est quand même une raison, est une occasion spéciale. Ça fait 20 ans aujourd'hui que Nino Ferrer est décédé. Ah. Nous avons quitté le 13 août 1998. Oh, c'était bien. Donc la pièce Mirza.
Merci de nous faire bouger ce matin. Ça réveille. Alors, Franceline, deuxième article.
Oui, alors, cette semaine, le 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Alors, j'ai trouvé dans le journal du Bel Âge un article qui parle de du tourisme humanitaire, un solide coup de main. Si on réfléchit au sens qu'on souhaiterait donner à notre vie, bien peut-être faire du tourisme humanitaire. Alors, on peut se demander si le bénévolat à l'étranger serait une bonne façon de nous rendre utile. Avant de se lancer, bien sûr, on gagne toutefois à s'informer sur les étapes à franchir pour apporter une aide concrète et profitable. Et voilà donc quelques étapes. La première, on se demande si cela nous convient vraiment. Qu'il s'agisse de bénévolat ici ou ailleurs, les motivations sont les mêmes, dit Katina Binette, chargée de programme pour l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, la QOCI. C'est pour nous, si on a envie de soutenir une cause sociale et de grandir au contact des personnes issues d'autres cultures, estime-t-elle. Autre étape, on choisit notre projet. L'idéal est d'y aller selon nos champs d'intérêt et de connaissances, conseille Madame Binette. Il peut s'agir d'un projet d'agriculture durable, de parrainage d'étudiants, d'autonomisation de femmes en milieu rural. La liste est longue et les causes louables multiples. Ensuite, on se documente. En faisant des recherches et en participant à des formations avant notre départ, on s'assure de mieux vivre le choc culturel, de connaître davantage le pays visité et ses enjeux de développement, ainsi de communiquer plus facilement avec les gens une fois rendus là-bas. Souvent, la préparation d'un voyage peut être aussi longue que le séjour lui-même, précise Madame Binette. Sur place, on garde l'esprit ouvert, on se concentre sur l'expérience humaine, on devient réceptif au partage de connaissances. Je dis souvent aux gens qu'on apprend bien plus que ce que l'on apporte là-bas, souligne la chargée de programme. Un séjour minimum de 3 semaines, idéalement au même endroit, est recommandé pour se donner la chance de s'adapter, de s'imprégner de la culture locale et de tisser des liens solides avec les gens de la communauté d'accueil. Enfin, on poursuit nos efforts au retour. Devenir un acteur de changement fait partie de ce qu'on appelle le cercle de l'engagement, dit Madame Binette. Par exemple, après avoir constaté les conditions de vie des cultivateurs de café, on pourrait décider de ne consommer que des produits équitables en revenant au Québec, propose-t-elle. Alors, comment on fait donc pour s'impliquer dans ce bénévolat à l'étranger? Alors, il peut revêtir plusieurs formes. La première forme, c'est l'aide humanitaire. Elle consiste en une action immédiate dans une situation d'urgence, comme une catastrophe naturelle, par exemple un tremblement de terre, une inondation ou une guerre. Ça peut être aussi, ça peut faire partie de la solidarité internationale. Il s'agit de séjours, généralement de bénévolat, de 2 semaines à 3 mois, parfois plus. En général, aucune compétence particulière n'est requise. Il peut aussi s'agir de coopération internationale. Dans le cas de la coopération, les séjours durent de 6 mois à 1 an et même plus. Ils visent les personnes détenant une spécialité, par exemple en travail social, soins infirmiers, médecine, enseignement ou ingénierie. Il existe aussi des entreprises de volontourisme qui combinent tourisme et travail de bénévolat. Il ne faut toutefois pas confondre volontourisme et séjour humanitaire. Le premier étant motivé par l'aspect lucratif, affirme Katina Binette. Les touristes bénévoles sont de passage seulement et dans bien des cas n'ont pas reçu une formation adéquate leur permettant d'apporter une aide efficace. Alors c'est quoi les ressources utiles? On peut donc se renseigner auprès de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale pour chercher un projet par pays, secteur ou type d'intervention. Alors c'est laqoci.qc.ca ou au téléphone, c'est le 514-871-1086 ou alors pour des organismes pour retraités et en particulier DESI, Développement, Expertise et Solidarité Internationale au 514 904 30 93. Voilà donc ce premier article écrit par Linda Presley dans le journal du Bel Âge. Après une petite pause, je vais vous lire une deuxième petite article. Alors, le deuxième petit article, c'est donc au sujet des proches aidants et quelques astuces pour mieux gérer votre charge mentale. Avez-vous déjà entendu parler de charge mentale? On entend souvent parler de ça en ce moment. Selon le site web Psychomédia, cette expression désigne la charge cognitive invisible que représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère domestique. Or, cette charge quotidienne peut devenir plus lourde qu'une épreuve lorsqu'une épreuve survient. En tant que proche aidant, vous avez certainement déjà ressenti ces effets dans votre vie de tous les jours. On n'a qu'à penser aux rendez-vous médicaux, aux médicaments administrés, aux courses à faire, au bien-être des autres membres de la famille. Lorsqu'on prend soin d'un proche et qu'on accomplit différentes tâches liées au rôle d'aidant, la gestion du foyer s'alourdit considérablement et peut même mener au surmenage. Alors comment faire pour réduire cette charge et ainsi prévenir l'épuisement? D'abord, demander de l'aide et partager les tâches. Il n'est pas rare d'entendre un proche aidant dire qu'il n'ose pas demander de l'aide à son entourage par peur de le déranger. Pourtant, si on leur en laissait la chance, les membres de l'entourage seraient généralement heureux de faire leur part. À ce propos, il peut s'avérer utile d'organiser une rencontre de partage des tâches entre les membres de la famille, en fonction des intérêts, des disponibilités et des capacités de chacun. On s'accorde aussi du répit. Acceptez qu'un étranger entre dans votre maison pour vous soutenir dans vos tâches quotidiennes ou prenne la relève auprès d'un proche dont le besoin n'est pas chose facile. Pourtant, même si cette personne ne fait pas les choses de la même façon que vous, il est important de profiter de l'aide offerte pour vous ressourcer et alléger votre charge. Enfin, apprendre à prioriser. On se concentre sur les tâches qui ont été accomplies plutôt que sur celles qui restent à faire. Ça permet d'aborder le quotidien plus sereinement. N'hésitez pas à remettre à plus tard la besogne qui peut attendre. Afin de réduire la charge mentale, il est primordial de reprendre contact avec soi-même, son couple, sa famille et ses amis, sans oublier ses propres intérêts, ses envies, ses rêves. Il faut réussir à prendre du recul et à se décharger sans culpabilité, en se rappelant qu'être proche aidant, c'est aussi vivre de belles histoires. Alors, pour obtenir plus d'informations et connaître les organismes de votre région, on communique avec le service Info Trait d'Union Aidant au 1-855-852-7784 ou à donc Info Trait d'Union Aidant à commercial l'appui.org. Des conseillers sont là pour vous écouter, vous informer, vous orienter vers les ressources disponibles près de chez vous. Et donc, c'est effectivement un organisme créé en 2009 et qui a 17 appuis régionaux. Donc, ce n'est pas simplement pour les gens de la région de Montréal, mais pour tout le Québec.
Oui, tout à fait.
Voilà. C'est... Donc, Linda Presley dans le journal du Bel Âge de juillet-août 2018.
Un bel article et il faut y aller avec ces recommandations-là. Oui, tout à fait. Prenez soin de vous. On vous revient dans quelques instants avec Serge. Alors Serge, une forme d'intimidation qui est très répandue.
Un jeune sur trois entre 14 et 18 ans affirme avoir déjà reçu un sexto.
Ouais.
Alors pour contrer la cyber-intimidation, par Nathalie Côté dans la revue Protégez-vous, les intimidateurs peuvent sévir en tout temps, en se servant des appareils technologiques que votre jeune trimballe dans ses poches. Aidez-le à se protéger contre la cyber-intimidation. À l'école primaire, William, un nom fictif, se faisait tourner en ridicule par des élèves en raison de ses difficultés d'apprentissage. En cinquième année, l'intimidation s'est transportée sur Facebook. « Mon fils m'en a parlé », raconte la mère de William, aujourd'hui âgée de 15 ans. « Je m'étais déjà plainte auprès de la direction de l'école, mais ça n'avait rien donné. » Décidé à ne pas laisser la situation dégénérer, elle s'est connectée au compte de son fils pour sommer l'intimidateur de le laisser tranquille. Les experts déconseillent toutefois cette façon de faire car elle peut provoquer une escalade. Résultat, le jeune intimidateur s'est mis à l'insulter. Alors, je lui ai dit que je savais qui il était, où il habitait et que j'irais montrer les captures d'écran de la conversation à ses parents s'il continuait. Elle et l'intimidation a cessé. Bon. Mais il arrive que la cyber-intimidation mène à une fin tragique. Ainsi, la jeune Rita Pearson s'est suicidée en 2013 en Nouvelle-Écosse après qu'une photo de sa présumée agression sexuelle a été diffusée sur Internet et après avoir subi du harcèlement en ligne. Ce phénomène touche aujourd'hui bon nombre de jeunes et les cyber-intimidateurs sévissent sur les réseaux sociaux, dans les courriels, les textos, les messageries instantanées, les groupes de discussion, etc. En somme, ils utilisent les technologies de communication pour intimider ou harceler les gens. Et comment mettre la cyber-intimidation KO? Toutes les écoles primaires et secondaires du Québec disposent de programmes de sensibilisation pour contrer l'intimidation en ligne ou ailleurs. Et devant la multiplication des cas de sextage, utilisation d'images ou de vidéos intimes pour faire chanter sa victime, certains corps policiers ont réagi. Par exemple, au printemps dernier, la police de Gatineau a lancé la campagne « Garde ça pour toi ». De son côté, le service de police de Saint-Jérôme a développé une trousse d'intervention sexto destinée aux intervenants dans les écoles. En tant que parent, vous avez aussi un rôle à jouer en cas de cyber-intimidation. Et voici des conseils pour aider votre jeune. Loin d'être un phénomène nouveau, l'intimidation s'est amplifiée avec les réseaux sociaux. Avant, on rentrait chez soi et on avait la paix jusqu'au lendemain, souligne René Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Mais maintenant, l'intimidateur vous poursuit en ligne. Les téléphones intelligents accentuent le problème puisqu'ils permettent de diffuser sans délai photos et vidéos. Et les incidents se produisent chez les jeunes dès la cinquième année du primaire, au moment où apparaissent les défis de socialisation. Or, la prévention devrait commencer bien avant cela afin de les aider à développer leur estime personnelle. Faire du renforcement positif est un moyen d'y arriver, souligne Josée Duquet, sexologue et intervenante pour tel jeune et la ligne parents. Si votre enfant peine à s'affirmer, vous pouvez aussi l'aider à répliquer aux critiques, suggère Nathalie Parent, psychologue. Il sera aussi, ainsi plutôt, moins susceptible de se faire intimider. Contrer la cyber-intimidation commence par l'adoption de comportements sécuritaires en ligne. Abordez cette question avec votre jeune. Insistez sur l'importance de ne pas communiquer ces informations personnelles à des inconnus. Utilisez les événements de l'actualité pour appuyer vos propos. Rappelez-lui de régler les paramètres de confidentialité de ses comptes et apprenez-lui à le faire au besoin. Snapchat, par exemple, permet de géolocaliser ses amis. Et quand on sait l'insouciance avec laquelle les jeunes en acceptent de nouveau, on peut craindre que des étrangers les suivent à la trace, illustre René Morin. Informez votre enfant que les contenus diffusés peuvent être enregistrés, même s'ils s'effacent rapidement. Certains parents exigent d'être amis avec leurs jeunes. D'autres réclament ces mots de passe. Votre enfant vous trouvera peut-être envahissant, mais il doit comprendre que la vie privée n'existe pas sur Internet, indique René Morin. Tu ne peux pas réclamer le respect de ta vie privée quand des centaines de personnes te suivent. Reste qu'une relation ouverte et de bonnes discussions sont souvent plus efficaces que le contrôle, les restrictions et les interdictions. Il faut maintenir la communication avec l'enfant et le faire parler de ce qu'il vit en ligne, croit Isabelle Plante, chef de la division de la recherche, du développement et de la stratégie organisationnelle au service de police de Gatineau. Les jeunes sont futés, prévient pour sa part sa collègue policière Sandrine Poulain. Ils peuvent ouvrir un deuxième compte à l'insu des parents. Et même si on confisque leur appareil, ils ont accès à Internet, à l'école. Offrez-lui votre soutien. Que faire si votre jeune se fait cyber-intimider? et son premier réflexe sera de tenter de régler la situation par lui-même. Il pourrait aussi refuser que vous vous en mêliez par crainte de représailles, et si vous découvrez qu'il est aux prises avec ce problème, discutez-en avec lui. Dites-lui que vous êtes inquiet et que vous comprenez qu'il traverse une situation difficile, ce qui arrive souvent quand on est jeune, recommande Nathalie Parent. Et s'il aborde lui-même la question, prenez-le au sérieux. La dernière chose que veulent les jeunes, c'est que leurs parents soient au courant de leurs problèmes. S'ils se confient, c'est que la situation a pris des proportions importantes, constate René Morin. Quoi qu'il en soit, les reproches sont inutiles. Votre enfant a surtout besoin d'être soutenu, et certains vivent une grande détresse et les services d'un psychologue peuvent être nécessaires. Il se peut toutefois que votre enfant éprouve un malaise à rencontrer celui de l'école, souligne Nathalie Parent. Et dans ce cas, tournez-vous vers un CLSC ou une clinique privée. Mais si votre jeune refuse toute aide, prenez l'initiative de consulter afin d'être mieux outillé pour l'aider. La plupart du temps, l'intimidation s'arrête dès qu'elle est dénoncée, assure Sandrine Poulin. Et si votre jeune refuse de porter plainte, adressez-vous directement à l'école ou aux policiers. Expliquez à votre enfant que vous comprenez sa peur, mais que vous ne pouvez laisser la situation perdurer, souligne Nathalie Parent. Et pour préserver sa confiance, informez-le de votre démarche, recommande la psychologue. Il pourra choisir d'y participer ou non. Faites des captures d'écran ou imprimez les messages reçus pour avoir des preuves afin de porter plainte. Avertissez les réseaux sociaux concernés. Chacun possède des mécanismes pour bloquer des utilisateurs et signaler des publications inappropriées. Et vous trouverez la marche à suivre sur aidez-moi-s'il-vous-plaît.ca. Et contactez le fournisseur de téléphonie cellulaire si l'intimidation se fait par texto. Il pourrait vous aider à bloquer un numéro ou à changer le numéro de votre enfant. Portez plainte à l'école. Chaque commission scolaire a son plan de lutte contre l'intimidation et la direction est tenue par la loi d'intervenir, indique Esther Chouinard, porte-parole au ministère de l'Éducation. Et finalement, portez plainte au service de police de votre municipalité si vous croyez qu'un acte criminel a été posé.
Tout à fait. Ouais. Bon. Il faut demander de l'aide, les jeunes.
Ah, ben oui.
Hein? C'est vrai?
Oui.
Voilà. Merci beaucoup, Serge. Je vous reviens avec un petit article sur l'avancée, une avancée dans la transparence, en fait. Un article d'Alain Vadeboncœur que j'ai retrouvé dans l'actualité du mois de septembre et qui parle de carnet de santé. Il écrit ce qui suit. Depuis quelques mois, se met en place le Carnet Santé Québec, qui offre à chaque personne un accès direct à la plupart des informations médicales contenues dans le dossier santé, réservé aux professionnels normalement. Présentés de manière conviviale, les résultats sont accessibles en quelques clics de souris. Il s'agit là d'une petite révolution qui comporte plusieurs avantages, mais aussi certains risques, notamment quant à la compréhension des données qui s'y trouvent. D'abord, une précision. Ce carnet ne donne pas accès au dossier médical complet, comme celui de la clinique ou de l'hôpital, mais seulement aux informations consignées dans le DSQ, soit la liste des médicaments prescrits, les résultats des tests de laboratoire et les rapports des examens d'imagerie, entre autres les radiographies, les échographies, les tomographies, etc. C'est déjà toute une avancée qui s'inscrit dans ce mouvement global visant à impliquer les patients dans leurs propres soins, ce qu'il faut saluer. Il permet de trouver directement ce qu'on ne pouvait auparavant obtenir qu'au prix de démarches parfois laborieuses auprès des médecins et des établissements de santé. Cependant, une mise en garde s'impose. Si on sait que la langue parlée par les médecins est parfois difficile à saisir, sa version écrite est un véritable jargon qui risque ainsi de susciter doutes, angoisses et questions sans réponse. Or, une absence apparente de sens dans un contexte aussi névralgique conduit à comprendre tout et n'importe quoi, même des fois, voire le pire. La langue médicale comporte en effet 5000 mots peu courants en français quotidien. Son usage suppose donc qu'elle soit traduite dans une forme ou une autre. C'est justement le rôle, plus ou moins bien tenu, du médecin ou de tout professionnel apte à l'interpréter. Tant les rapports d'imagerie écrits dans un langage technique que les résultats de laboratoire, une myriade de chiffres d'importance variable, seront peu compréhensibles pour la plupart des patients, sauf pour ceux et celles qui sont eux-mêmes soignants. Pour ce qui est des résultats de laboratoire, une autre couche de complexité s'ajoute à la difficulté de la langue. C'est que la normalité de ces tests est souvent définie par rapport aux résultats obtenus pour la majorité, habituellement 95 % des personnes en bonne santé, ce qui donne jusqu'à 5 % de résultats anormaux en l'absence de toute maladie. Il est donc inévitable que des valeurs anormales apparaissent chez les bien portants, surtout si on fait passer à chacun un grand nombre de tests. Mais cela ne dénote pas toujours la présence d'une maladie. On trouvera donc dans certains carnets des rapports d'imagerie qui susciteront des interrogations et des résultats de prise de sang qui afficheront des valeurs anormales, ce qui convaincra les inquiets de la présence d'une maladie, alors que ce ne sera pas nécessairement le cas. Par analogie, les personnes qui prennent régulièrement leur pression artérielle sont également laissées à elles-mêmes pour en interpréter les variations plus ou moins habituelles. Elles consultent alors souvent à l'urgence par manque de connaissances. Même si les concepteurs ont prévu un délai de quelques semaines entre l'accessibilité des rapports pour les prescripteurs et leur parution dans le carnet des patients, des résultats bruts, voire brutaux, pourraient être lus par des patients avant que ceux-ci aient pu en discuter correctement avec leur médecin. Ne serait-ce que par manque de disponibilité des rendez-vous? Peut-être. Une bien mauvaise manière d'apprendre une grave nouvelle. Malgré tous ces risques, je suis favorable à cette avancée dans la transparence de la médecine et dans l'implication des patients dans le suivi. Elle pourrait même avoir un effet pédagogique à long terme, amenant les gens à mieux comprendre de quoi et qu'il en retourne quand un examen est effectué. En contrepartie, renseigner la population sur la signification des tests courants m'apparaît une opération incontournable. Par exemple, on pourrait lier une banque de données offrant de l'information sur les différents examens prescrits. Parce que s'il est louable de fournir tous ces renseignements, encore faut-il acquérir une meilleure compréhension des tests réalisés. Compte tenu du manque de connaissances générales en santé, voilà un solide défi pour les prochaines années qui devrait être relevé aussi efficacement que celui d'avoir rendu accessible toute cette information médicale à la population en général. Alors voilà, c'est un article que j'ai retrouvé sur le magazine L'Actualité. À Franceline.
Oui, quelques brèves donc.
Allez-y.
Alors, 1,50 $ de plus par jour, de quoi s'agit-il? Eh bien, on a toujours l'impression que consommer des aliments frais et santé coûte cher. Pensons notamment aux petits fruits et aux légumes biologiques. Pourtant, d'après une méta-analyse publiée en 2013 par l'Université Harvard, il suffirait de 1,50 $ de plus par jour pour manger sainement. Cette recherche répertorie 27 études menées dans 10 pays riches. On a comparé les différences de prix par portion, par 200 calories par jour et selon un apport quotidien de 2000 calories. En gros, les différences de prix les plus importantes se retrouvent dans les viandes protéines, steak haché, maigre versus extra maigre plus cher, mais ces variations de prix s'amenuisent quand on se tourne du côté des produits céréaliers et laitiers, ainsi que des huiles.
Ah, merci beaucoup. Moi, de mon côté, j'ai 13 conseils de maître nageur, mais je ne vous en donnerai pas 13 quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vais vous en donner quelques-uns. À moins d'absolue nécessité, évitez de parler au maître nageur aux piscines. C'est très important. Ils sont censés vous écouter poliment, mais le bavardage les distrait. Lorsqu'ils sont en service, ils surveillent les lieux et comptent les baigneurs chaque minute. Alors, c'est très important de les laisser tranquilles. Autre petit conseil, les maîtres nageurs sont en première ligne, mais les parents doivent être attentifs à leurs enfants, surtout en l'absence de personnel formé. Selon la Société de sauvetage du Québec, plus d'un tiers des noyades d'enfants de moins de 5 ans se produisent en présence de parents distraits. Et on en a beaucoup aussi à la maison, entre autres. Une noyade ne ressemble pas aux gesticulations des films. Vous voyez ça souvent dans les films? Non, c'est pas tout à fait vrai. Non, on dit c'est souvent rapide et silencieux. Les maîtres nageurs sont formés à reconnaître des indices subtils. Une posture verticale, la bouche qui disparaît, puis réapparaît à la surface, ou un regard vitreux, entre autres, des gens qui sont en train de se noyer. Ben, c'est un des conseils. Sinon, c'est une des choses que les maîtres nageurs font. Et finalement, des chercheurs de l'Université d'Alberta estiment qu'une piscine publique de taille moyenne peut contenir jusqu'à 75 litres d'urine. Souvenez-vous-en hein, avant de barboter la bouche ouverte. C'est un des conseils que j'ai retrouvé dans la sélection du Reader's Digest. Voilà, c'est tout pour l'émission. Je remercie Franceline Nieuviard d'avoir été là. Je remercie Serge Hamelin, naturellement. Jean-Sébastien Laliberté, qui a été là. Bien heureux de le retrouver encore une fois. Et restez à l'écoute dans quelques minutes. Il y a l'émission Le quotidien des quotidiens avec, cette fois-ci, François Brodeur, qui est là. On vous souhaite une excellente semaine et je vous rappelle que cette émission est en rediffusion dans la journée et elle est diffusée toute la semaine à 9h le matin. Bonne semaine à tous.
Oui, bonne semaine.